Bonjour à tous, il est midi ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Karine Bellicha.
Officiellement, la rencontre entre les chefs de la diplomatie russe et américaine à Riyad doit servir à organiser un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un rapprochement historique, alors que la guerre en Ukraine fait l'objet de toutes les spéculations. Moscou semble avancer un deal. Explication dès le début de ce journal. La France recule-t-elle sur ses engagements environnementaux ? Emmanuel Macron avait promis en 2022 un quinquennat écologique. 3 ans plus tard, Simon Rosé nous dira que la démission du secrétaire général à la planification écologique est un mauvais signe. Et puis, toujours en France, Robert Ménard a refusé de plaider coupable ce matin. Le maire d'extrême droite de Béziers avait refusé il y a 2 ans de célébrer le mariage entre une Française et un Algérien en situation irrégulière. C'est illégal, il risque une peine de prison et une forte amende. Une nouvelle ère débute donc à Riyad, aujourd'hui celle d'un dégel entre les États-Unis et la Russie. Les chefs de la diplomatie des deux pays sont réunis, une première depuis l'invasion russe de l'Ukraine. En 2022, ils sont chargés de préparer un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Un rapprochement spectaculaire qui inquiète les Ukrainiens et les Européens. Les deux dirigeants vont-ils négocier seuls un plan de paix? Aujourd'hui, Moscou temporise et avance des pistes pour parvenir à un accord. Oui, dit Moscou, à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Non, en revanche, à son intégration dans l'OTAN, ligne rouge absolue pour le Kremlin. Théo Renaudon, du service international, nous a rejoint. Bonjour Théo.
Bonjour Karine.
En tout cas, cette rencontre est déjà historique.
Oui, premier tête-à-tête entre Russes et Américains à ce niveau depuis le début de la guerre. Grande table en acajou. D'un côté donc, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, et de l'autre, Marco Rubio, nouveau secrétaire d'État américain, et en bout de table, des officiels saoudiens portant la traditionnelle coiffe arabe. Ambiance vraisemblablement glaciale, pas de poignée de main, pas de déclaration attendue. Objectif, vous l'avez dit, donc d'abord renouer les liens économiques et préparer une rencontre historique Vladimir Poutine-Donald Trump. Premier tête-à-tête entre le président russe et un chef d'État américain depuis plus de 10 ans. Le Kremlin affiche d'ores et déjà de nouvelles lignes de négociation. Vous l'avez dit, la Russie reconnaît ce mardi le droit de l'Ukraine à entrer dans l'UE, mais pas dans l'OTAN. Vladimir Poutine se dit même prêt aujourd'hui à négocier avec Volodymyr Zelensky. Pas de paix en Ukraine possible, sans discuter largement de sécurité en Europe, ajoutait le Kremlin il y a quelques minutes.
Théo Renaudon du service international. À la hâte, les dirigeants européens se sont réunis hier à Paris pour tenter de présenter une position commune, un front uni sur la question ukrainienne. Pas de communiqué à l'issue de cette réunion, mais ce commentaire du président Macron, il faut parvenir à des garanties crédibles de sécurité pour les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky dit partager la position européenne. Au Proche-Orient, l'armée israélienne devait se retirer du sud-Liban aujourd'hui. C'est ce que prévoyait l'accord de cessez-le-feu signé en novembre avec le Hezbollah. Mais Israël a décidé de maintenir ses troupes en 5 postes de contrôle. Selon l'État hébreu, le Hezbollah ne s'est pas lui-même retiré de la zone au profit de l'armée libanaise. Beyrouth demande au Conseil de sécurité d'obliger Israël à partir. En France, plus de 4 mois après leur présentation, les budgets pour 2025 sont enfin adoptés au Parlement. Le Sénat a approuvé définitivement le projet de budget de la Sécurité sociale hier. Et en matière d'environnement, où en est-on ? Emmanuel Macron avait promis en 2022 que ce nouveau quinquennat serait écologique ou ne serait pas. 3 ans plus tard, on peut déjà dresser un premier bilan. Nouveau coup de canif dans l'ambition environnementale et climatique de l'exécutif. L'annonce de la démission d'Antoine Peillon. Simon Rosé, bonjour.
Bonjour.
Le secrétaire général à la planification écologique rend son tablier.
Et oui, ce n'était pas le plus connu, mais pourtant rouage essentiel dans la machinerie de l'action gouvernementale. Directement placé sous la tutelle du Premier ministre, il coordonne l'action de tous les ministères. Rôle important, reconnu comme tel lorsqu'Elisabeth Borne était à Matignon. Depuis son départ, c'est bien moins le cas. Gabriel Attal, Michel Barnier et aujourd'hui François Bayrou s'intéressent beaucoup moins à ces enjeux. enjeux et Antoine Pélian, ce secrétaire général, a perdu beaucoup d'influence. Dont acte, il annonce son départ, estimant qu'il sera plus utile ailleurs.
Est-ce le signe de la fin de l'ambition écologique gouvernementale ?
Alors, les services du Premier ministre assurent que ce SGPE, ce secrétariat général, conservera son rôle et son périmètre. Reste que la planification écologique française est en train de dérailler et ce départ ne va pas arranger les choses. Anne Bringot est directrice des programmes du réseau Action Climat.
Les émissions de gaz à effet de serre en France ont repris une hausse au troisième trimestre 2024. On a effectivement eu des reculs sur l'agriculture où maintenant il faut plus parler du tout de climat quand on parle d'agriculture. Il y a eu des coupes budgétaires, notamment sur le soutien aux véhicules électriques. On a finalement un ensemble de mesures qui freine cette transition écologique et ce départ rajoute une petite louche supplémentaire sur l'inquiétude qu'on a sur la vraie priorité accordée à la planification écologique par ce gouvernement.
Simon Quid, de la suite.
Eh bien, la dynamique n'est pas bonne et on ne voit pas trop ce qui pourrait inverser la tendance à court terme. Hein, vous le disiez, en témoigne l'adoption définitive du budget ce lundi soir au Sénat. La transition écologique est la mission qui a subi le plus de coupes, annulant toute la montée en puissance budgétaire entamée depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Simon Rosé, chef du service environnement d'RFI. Le ministre de l'Intérieur lui a apporté son soutien. Bruno Retailleau propose même de changer la loi. En attendant, Robert Ménard était convoqué ce matin par le procureur pour avoir refusé de marier une Française avec un Algérien en situation irrégulière. Ce refus de mariage est illégal. Le maire d'extrême droite de Béziers, dans le Sud-Est, a refusé de plaider coupable. Il encourt donc 5 ans de prison, une amende de 75 000 euros et une peine d'inéligibilité. Marie Casadebé a retrouvé Eva, la fiancée de Mustapha. Lui a depuis été expulsé.
On n'imagine jamais que le jour qui est censé être le plus beau jour de sa vie va se passer comme ça.
C'est en regardant la télévision qu'Eva et son fiancé apprennent la nouvelle. Sur le plateau de la chaîne privée CNews, le maire de Béziers, Robert Ménard, annonce en direct qu'il ne les mariera pas. Nous sommes la veille de la cérémonie.
Vous allez le marier ?
Mais bien sûr que non. Ce type est en situation irrégulière. Mais si on veut le mettre dehors, mais écoutez, que la police des airs et des frontières, je leur donne rendez-vous vendredi à la mairie, ils le trouveront, puisqu'il vient à 11h se marier.
Quitte parce à vous mettre, vous, hors la loi.
Mais bien sûr, tant pis, quand le droit est à ce point contre la logique, le bon sens, l'évidence.
Moi, on est stupéfait, on dort pas de la nuit, je décide quand même d'aller voir Monsieur Ménard pour discuter avec lui, parce que je me dis qu'il peut déléguer un officier d'état civil, mais qu'il peut pas gâcher le jour J, l'amour de deux personnes pour des opinions politiques. Malheureusement, quand on se présente à l'heure du mariage, c'est là que le drame a commencé, entre guillemets.
Une nuée de caméras les attend sur le parvis de la mairie. L'élu a prévenu la presse. Le couple parvient malgré tout à atteindre l'entrée du bâtiment.
Et là, en fait, la sonnette d'alarme retentit. Les portes de la mairie nous sont fermées au nez à la demande de Monsieur Ménard pour exprimer son refus. Enfin, on ne traite pas les gens comme ça.
Et 2 semaines plus tard, Mustapha est renvoyé en Algérie. Le mariage n'aurait jamais pu empêcher son expulsion. Mais pour Eva, les deux événements sont forcément liés au vu de la médiatisation de l'affaire et de la mobilisation du maire.
Dans la semaine qui a précédé le mariage, j'ai saisi tout le monde. La police des airs et des frontières, le sous-préfet, le préfet, le ministre, le procureur en leur disant « Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'appliquer l'OQTF que vous avez délivré ?»
L'avocate du couple a saisi la justice pour dénoncer une expulsion illégale. Elle soutient que son client n'a vu ni avocat ni juge avant d'être placé dans un avion. Le tribunal administratif se prononcera sur ce volet vendredi. Robert Ménard, lui, devra s'expliquer plus tard devant le tribunal correctionnel après avoir refusé ce mardi la procédure de plaider coupable proposée par le procureur.
J'attends quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'on a subi, de ce qu'on a ressenti. On n'atteint pas la vie des gens comme ça. On remet pas en cause leur amour, on les dénigre pas comme ça. Et à la télé et partout, c'est pas rien ce qu'il a fait.
Depuis 20 mois, Eva multiplie les allers-retours en Algérie pour voir Mustapha, qui n'a pas souhaité s'exprimer. Sa compagne le dit tout aussi désemparée.
Le reportage de Marie Casadebé. Tous les engagements du pape sont annulés ce week-end. François va rester hospitalisé au moins jusqu'à mercredi. Il présente un tableau clinique complexe selon le bulletin de santé publié. Le pape âgé de 88 ans se trouve à l'hôpital Gemelli de Rome depuis vendredi pour une grosse infection des voies respiratoires. Enfin, un mot de football à présent. Monaco, condamné à l'exploit ce soir, battu à domicile par le Benfica Lisbonne.